Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Nous revoici pour une nouvelle année de sciences passionnantes et autres aventures sur Comment ça marche ?
Avec moi, Tatiana.
Et moi, Maria, au micro.
Aujourd'hui, au programme, un sujet qui nous survole, les avions. Pour commencer, un peu d'histoire, puis on rentrera dans des détails plus techniques.
Et après ce débriefing aéronautique, une petite présentation du prix Nobel de chimie 2020 et les heureux gagnants.
Ou plutôt, heureuses gagnantes.
En effet, mais gardons ceci pour plus tard. Vous êtes prêts ? Comment ça marche, c'est...
Maintenant !
Ah, voler !
Le plus vieux rêve de l'humanité. Dès l'Antiquité, on imagine des stratagèmes qui permettent de s'élever dans les airs.
C'est le cas du mythe d'Icare. Pour sortir du labyrinthe, Dédale et son fils Icare tentent de s'évader par la voie des airs.
Ils confectionnent pour cela des ailes faites de cire et de plumes et réussissent leur coup.
Malheureusement, Icare, surexcité, vole trop haut et s'approche trop près du soleil qui fait fondre la cire.
Et il tombe ainsi dans l'océan.
Cependant, on ne s'est pas arrêté aux légendes.
En l'an 1000 avant Jésus-Christ, les Chinois inventent le cerf-volant, premier engin volant de l'histoire.
Puis, dans la deuxième moitié du XVe siècle, Léonard de Vinci dessine les premiers plans de machines volantes. Parachutes, hélicoptères, quelle ingéniosité !
C'est en 1783 que les frères Montgolfier font voler pour la première fois la Montgolfière, un ballon à air chaud.
C'est le début de l'essor de l'aéronautique. En 1852 apparaît le dirigeable.
Et en 1856, Jean-Marie Le Brix devient le premier homme à avoir décollé à bord d'une machine plus lourde que l'air, le planeur. Il est alors tracté par un cheval attelé à une charrette.
En 1903, les frères Wright mettent en place un planeur avec moteur à explosion. C'est le début de l'aviation moderne.
Les traversées de la Manche, Méditerranée, se succèdent, mais sont interrompues par la Première Guerre mondiale.
On utilise d'abord les avions comme des appareils d'observation, puis peu à peu, comme des véritables machines de guerre.
L'entre-deux-guerres est l'époque des grands raids. La traversée de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique Sud, la cordillère des Andes, en solo ou en duo.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les techniques ont suffisamment évolué pour permettre enfin d'envisager l'exploitation commerciale.
Les lignes aériennes se développent constamment et rapidement.
L'aéropostale apparaît en 1919, créée par Pierre-Georges Latécoère. Il s'agit d'une compagnie aérienne qui va acheminer le courrier de la France vers l'Amérique du Sud, en passant par le Maroc.
Des pilotes célèbres comme Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry font partie des lignes Latécoère.
L'aéropostale sera fusionnée avec quatre compagnies en 1933 pour créer Air France.
Arrive la Seconde Guerre mondiale, avec de grandes avancées technologiques.
Le premier avion de chasse à réaction, le Messerschmitt 262, fait son apparition en 1944 et constitue un véritable atout pour les Allemands.
Mais du fait de son arrivée tardive, il ne leur permettra pas de gagner la guerre.
Le missile V2, inventé par von Braun, sera ensuite le modèle pour la construction des fusées.
Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ère des avions à réaction, aussi bien dans le commercial que dans le militaire. Une figure phare de l'aéronautique au XXe siècle est Marcel Bloch, renommé Marcel Dassault, inventeur de l'hélice éclair et des avions militaires Ouragan, Mystère, Mirage. Son groupe Dassault Aviation inventera en 1986 le Rafale, l'un des meilleurs avions de chasse à réaction du monde.
Et à partir de 1957, la conquête spatiale débute.
Mais cela, c'est pour une autre émission.
Mais comment un aéronef tellement lourd est capable de voler dans les airs ?
Eh bien, c'est tout simple, grâce à ses ailes !
Avant de rentrer dans les détails, il faut savoir qu'un avion est soumis à quatre forces. Celle qui l'attire vers la terre, le poids. Celle qui le porte, la portance.
Celle qui le fait progresser dans l'air, la traction. Et celle qui le freine horizontalement, la traînée. En vol en palier, elles sont équilibrées deux à deux.
Si l'on prend une aile de profil, on remarque que la partie supérieure de l'aile, appelée extrados, est plus bombée que la partie inférieure de l'aile, appelée intrados.
L'air va donc parcourir une plus grande distance sur l'extrados que sur l'intrados. Les molécules d'air sur l'extrados vont donc plus vite que sur l'intrados.
Cette vitesse sur l'extrados fait également diminuer la pression et on a du coup plus de pression sous l'aile qu'au-dessus.
Cette différence de pression crée une force vers le haut qui va porter l'avion. C'est la portance!
Si la vitesse de l'avion passe en dessous d'une vitesse minimale ou si le nez de l'avion regarde trop vers le haut, il peut se produire le pire qu'il y a dans l'aviation.
Le décrochage. L'air ne peut plus circuler normalement et on perd soudainement la portance. L'avion perd de l'altitude, ce qui peut être fatal à faible hauteur.
Voici l'alarme qui vous avertit si vous pilotez.
Stall.
C'est très désagréable. Maintenant, voyons comment l'avion peut manœuvrer en vol.
L'avion possède trois gouvernes qui lui permettent de se déplacer. La gouverne de profondeur, pour lever ou baisser le nez de l'avion et donc monter ou descendre, on dit qu'elle contrôle l'axe de tangage.
La gouverne de direction, pour aller vers la gauche ou la droite, c'est l'axe de lacet.
Et les ailerons, pour rouler ou s'incliner vers la droite ou la gauche, c'est l'axe de roulis.
La gouverne de profondeur et les ailerons sont commandés par le manche ou joystick.
Et la gouverne de direction par les palonniers, qui sont des pédales.
On a différents instruments de navigation dans le cockpit. L'altimètre qui mesure notre altitude ou hauteur.
L'anémomètre qui mesure la vitesse. L'horizon artificiel qui montre si l'avion monte ou descend et son inclinaison.
Et en dessous, le conservateur de cap qui indique la route magnétique de l'avion.
Un autre vol qui émerveille est celui des oiseaux. Par exemple, l'aigle, dû à son importante envergure, qui est la distance entre les deux bouts des ailes, peut planer longtemps dans l'air sans battre des ailes.
Cela s'appelle finesse et s'applique aussi aux avions. La finesse correspond à la capacité de l'avion à planer, la distance qu'il va parcourir en perdant une certaine hauteur. C'est pourquoi les avions ont de si longues ailes. Si le moteur tombe en panne, pas de problème, votre avion peut encore planer quelque temps.
Mais les maestros de ce domaine sont évidemment les planeurs, qui n'ont pas de moteur et qui, comme leur nom indique, planent. Vous en savez assez sur les avions.
Parlons maintenant du prix Nobel.
Le prix Nobel est suédois et c'est l'un des prix les plus prestigieux que l'on trouve au niveau international. On a eu les résultats du Nobel de chimie 2020, début octobre. Qui sont les gagnants?
Ou plutôt gagnantes. C'est la première fois qu'un duo 100% féminin est lauréat de ce prix.
Il s'agit d'Emmanuelle Charpentier, chercheuse française en microbiologie, génétique et biochimie, et la professeure américaine de chimie et biologie moléculaire et cellulaire Jennifer Doudna.
Elles ont découvert des nano-ciseaux génétiques très précis qui permettent de modifier l'ADN d'êtres vivants, en un temps record et pour un faible coût. Ces ciseaux s'appellent CRISPR-Cas9. Elles les ont découverts il y a moins de 10 ans et publiés dans la revue Science.
Cet outil bouleverse la recherche et est utilisé pour trouver de nouveaux médicaments contre le cancer, contre des maladies génétiques, le VIH ou le vieillissement cellulaire.
Le système CRISPR-Cas9 est constitué d'un ARN guide qui cible une séquence d'ADN particulière associée à l'enzyme Cas9 qui, comme des ciseaux moléculaires, coupe l'ADN.
Et c'est malheureusement la fin de notre émission.
Nous espérons qu'elle vous ait plu et vous ait donné envie d'en savoir plus.
On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Comment ça marche.
N'hésitez pas à poster des commentaires sur www.radiolfb.net.
À la prochaine.